Voici donc un podcast du comité étudiant du CRIPCAS, donc le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles, qui portera sur les impacts de la COVID sur les recherches menées par des chercheurs réguliers du groupe de recherche. Aujourd'hui, ce sera nous, donc Kevin Smith et Roxane Guyon, qui animeront la prochaine heure. Nous accueillons donc via Zoom, pandémie oblige, les professeurs Delphine Colin-Vizina et Nicolas Berthelot. Bonjour à vous. Donc, Delphine, vous êtes professeure associée à l'Université McGill, à l'École de travail social et membre associé du département de pédiatrie, PhD en psychologie clinique à l'UDM et postdoc à l'UQAM, directrice du Centre de recherche sur l'enfance et la famille, directrice du Consortium canadien sur le trauma chez les enfants et les adolescents, titulaire de la chaire de recherche Nicolas Steinmetz et Gilles Julien sur la pédiatrie sociale en communauté. Vous vous êtes exprimé dans plusieurs articles, notamment La Presse, The Conversation et WordPress, au sujet des effets de la COVID sur la diminution des rapports d'abus à la DPJ. Nicolas Berthelot, professeur associé à l'UQTR au département des sciences infirmières, doctorat en psychologie, recherche et intervention à l'Université Laval, deux postdocs, un à l'Institut universitaire en santé mentale du Québec et l'autre à l'UQAM, chercheur régulier au Centre de recherche interdisciplinaire sur le développement de l'enfant et la famille, au groupe de recherche et d'intervention auprès des enfants vulnérables et négligés et à l'axe neurosciences cliniques et cognitives, Centre de recherche cerveau. Vous avez publié le 25 mai dernier un article sur les différences entre les mères avant et après la COVID au niveau de variables d'ajustement psychologique. C'est ça. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
On a bien fait nos devoirs, hein?
Il manquait pas
de belles présentations.
Si vous voulez nous parler un peu des recherches que vous menez présentement, sur quoi est-ce que vous travaillez?
Je vais y aller. On travaille sur plusieurs projets, ceux qu'on a pu maintenir malgré la COVID, les projets qui pouvaient se mettre soit parce qu'on avait déjà des données, soit parce qu'elle pouvait se mettre sur pause un peu, on a pu les poursuivre, ce qui est vraiment une chance, parce qu'on peut s'imaginer là que dans le contexte de la COVID, comme chercheur, un des impacts qu'on a vécu, c'est certaines collectes qu'on n'a pas pu faire auprès de personnes. Donc, il y a déjà comme un peu l'objectif de vouloir maintenir ce sur quoi on a travaillé pendant plusieurs années. Et ensuite, la COVID, ça a donné l'opportunité de faire des nouveaux projets de recherche, de tenter d'être le plus pertinent possible et que notre expertise soit utile dans le cas de la COVID. Et je pense que c'est le cas de Nicolas aussi, donc des projets qui se voulaient le plus possible répondre à des grandes questions. Moi, la grande question qui m'a préoccupée, c'est à quel point, finalement, le fait que les enfants n'étaient plus dans les milieux de soins, ils n'étaient plus dans les écoles, ils n'étaient plus vus par des personnes de la communauté, jusqu'à quel point ça faisait en sorte que certains enfants pouvaient être à risque de maltraitance, puis malheureusement, qu'on n'était pas là pour les aider, qu'ils n'avaient plus de véhicule pour pouvoir parler de leurs difficultés, puis d'avoir des sentinelles, hein, les fameux anges gardiens, qui pouvaient être là pour pouvoir signaler ces difficultés de maltraitance. Puis malheureusement, dans les premières analyses qu'on fait là, à l'échelle de Montréal avec l'équipe de l'IUJD, ce qu'on réalise, c'est qu'effectivement, il y a eu 32% de moins de signalements en protection de la jeunesse en comparaison au printemps 2019 où il n'y avait pas la COVID. Malheureusement, on ne peut pas croire que c'est parce qu'il y a 32% de moins d'enfants qui sont victimes de maltraitance. La raison pour laquelle il y a cette diminution, c'est parce qu'il n'y a presque pas eu du tout de signalement qui est fait par l'école, alors que l'école est responsable le plus souvent d'à peu près du tiers là, des signalements qui sont reçus en protection de la jeunesse. Fait que ça, c'est un résultat que j'ai trouvé super intéressant et sur lequel il faut qu'on s'attarde beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui souffrent en silence et qui sont pas, on n'arrive pas à rejoindre pour pouvoir les aider.
Mais est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait eu davantage de violence, mettons, pendant la période de confinement, on s'attend à ce que ce soit resté pas mal au même niveau, tu sais?
C'est sûr qu'on fait des suppositions parce que, justement, c'est un peu un chiffre qui est difficile à établir parce qu'il y a beaucoup, c'est la pointe de l'iceberg sur laquelle on est capable de capitaliser. Mais on sait, à partir d'études qui ont été faites lors d'autres désastres naturels, d'autres pandémies, que les enfants sont plus à risque de vivre de la violence, de la maltraitance. Pour plusieurs raisons, les adultes vivent la grande détresse. Ils peuvent avoir recours à des stratégies d'adaptation qui deviennent moins efficaces, comme par exemple au Québec, les nouveaux sondages ont montré que les adultes ont augmenté leur consommation d'alcool, ce qui n'est pas une bonne chose pour les enfants qui vivent dans des contextes difficiles. Mais c'est aussi tout le tissu social. Il y a plusieurs familles qui avaient assez de facteurs de protection pour pouvoir juste se maintenir à flot, mais qui étaient assez fragiles. Malheureusement, la COVID arrive et là, on leur enlève peut-être la ressource communautaire où ils allaient chercher justement le soutien qui était nécessaire pour ne pas verser vers la maltraitance. Donc, on a tout lieu de croire que les enfants ont été plus à risque de maltraitance, puis peut-être au mieux, c'est resté similaire. Mais malheureusement, on les a détectés moins.
Puis comment pensez-vous que ce serait possible d'accéder à cette information-là, mettons? Est-ce que c'est envisageable d'aller chercher, mettons, d'aller répondre à la question, est-ce que les enfants ont été davantage victimisés pendant la COVID, mettons? Comment est-ce qu'on pourrait accéder à cette information-là?
En fait, on va le savoir un peu plus tard. Hein? On va le savoir lorsqu'on aura la possibilité de demander à des jeunes qui ont la chance de nous parler de leur situation de victimisation, alors qu'ils ont atteint l'âge de la majorité ou ils font partie d'un grand sondage où on va chercher cette information, ça nous permettra de pouvoir comparer avec les taux qui existent déjà. Les taux qui existent déjà, ils sont malheureusement déjà un peu tristes. Hein? Les données pan-canadiennes indiquent que c'est un Canadien sur trois qui a vécu avant l'âge de 18 ans, soit de l'abus sexuel, de l'abus physique et ou de l'exposition à la violence conjugale. Donc, on partait avec des taux déjà importants, là, malheureusement. Là, le risque, c'est que peut-être ça l'a accentué juste un peu plus, puis on le saura en suivant comme ça ces cohortes et en ayant accès à l'information après coup.
Oui, puis on peut peut-être même penser aussi que les données, en fait, qui sont auxquelles on a accès en ce moment sont sous-rapportées, là, dans le sens où, c'est souvent des mesures justement auto-rapportées, là, puis c'est ceux qui vont accepter de dévoiler puis qui vont reconnaître leur vécu, en fait, là. Fait que, c'est déjà le portrait est lourd, là, on ne peut pas imaginer la réalité en tant que telle. Là.
Oui, puis si on ajoute toutes les différentes formes de traumatisme hein, que des enfants peuvent vivre, puis on parle beaucoup ces temps-ci des traumas aussi qui sont beaucoup plus sociaux, les traumas liés à l'identité ethnique, culturelle. Donc, lorsqu'on commence à regarder l'ensemble des expériences adverses qu'un enfant peut vivre, malheureusement, il y a une liste très longue. Il y a certains enfants qui vont accumuler beaucoup. Et là, la COVID peut avoir accentué un peu là, cette vulnérabilité, cette fragilité à en vivre d'autant plus. Alors, il va falloir qu'on continue comme chercheur, comme étudiant aussi, à pouvoir vraiment s'engager dans ce type de recherche où on essaie le plus possible de... on collecte des données qui veulent dire quelque chose pour des gens. Puis, donc, d'en faire quelque chose et d'être sûr de rester toujours pertinent au plan social.
Donc là, vous, mettons, vous allez chercher vos données à la DPJ, mettons, pas dans les écoles.
Celles-ci, elles étaient de la DPJ, effectivement.
Si elles étaient de la DPJ, comment vous voulez dire, je m'excuse?
Oui, ces données-ci, elles étaient de la DPJ.
OK. Donc, si il y a moins de rapports, puis qu'on ne va pas chercher les données dans les écoles, quand est-ce qu'on pourrait s'attendre à pouvoir avoir accès à ces données-là, tu sais?
Il y a vraiment plusieurs. Le Québec est vraiment très, très bien situé en termes de recherche, d'expertise, de groupes vraiment très influents dans la recherche qui portent sur les abus, la maltraitance, la violence. Ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs initiatives qui sont en cours, comme par exemple, juste le chiffre que j'ai donné de Montréal, il y a une initiative présentement qui va couvrir tout le Québec. Donc, est-ce que ça s'est passé de la même façon dans tout le Québec? Est-ce que la réouverture en dehors de Montréal a fait en sorte que cet effet-là s'est amoindri? De façon anecdotique, parce qu'encore une fois, des fois, on a des bouts de réponse qui nous viennent des milieux terrains avant que la recherche vienne le confirmer, ont montré que, par exemple, à Québec, ils ont eu, lorsque les écoles ont réouvert, donc, de nouveaux signalements qui sont apparus de façon un peu plus présente. Alors, ça va être très intéressant de voir comment ça a bougé avec le temps. Puis ensuite, on va suivre, c'est ça, cette cohorte d'enfants, d'adolescents qui va avoir vécu lorsqu'ils étaient petits cette situation vraiment, cette grande turbulence qu'est le COVID et voir quels ont été les impacts pour eux.
Toi qui es mère de trois enfants, et qui peut parler aussi au nom des enfants parce que tu travailles beaucoup auprès d'eux. Comment ils ont vécu ça, les enfants, les ados, pendant la pandémie, pendant la COVID, selon toi?
Je pense qu'il y a dû avoir une énorme variabilité entre les expériences de tous et chacun. Les familles où il y avait déjà beaucoup de facteurs de protection, des parents qui ont des ressources personnelles, familiales, collectives, qui n'ont pas trop de problèmes de santé mentale. Puis je dis pas trop au sens où je veux pas dire que c'est des parents parfaits, mais juste vraiment qu'il y avait quand même un ensemble de facteurs de protection. C'est possible que ce soit des enfants qui vont traverser la COVID avec finalement juste un souvenir d'une période un peu particulière, mais sans trop de séquelles aussi associées à cet événement. Alors que pour d'autres, bien, on va aller jusqu'à l'extrême où ça a dû être un stresseur des plus intenses. Si on pense à des enfants pour qui le seul endroit qui était sécuritaire, où ils ne vivaient pas de la violence, où ils se sentaient appréciés, où ils ne vivaient pas de l'abus psychologique, par exemple, ou d'autres formes d'abus là, vraiment très importants, si c'était juste à l'école que cet endroit sécuritaire existait, bien, on leur a retiré ce qui pouvait être pour eux là, le plus important. Donc, je pense qu'il va falloir toujours qu'on pense en termes de continuum, qu'on pense vraiment qu'il n'y aura pas une seule réaction à la COVID. Il va y avoir toute cette variabilité. Puis les facteurs qui vont influencer cette grande variabilité, je pense qu'elle a beaucoup à voir avec qui on était avant comme famille, qu'est-ce qu'on avait comme ressources et comme capacités. Et il y aura possiblement des familles qui vont même parler de conséquences positives pour eux. On a déjà dans les questionnaires qui ont été développés au niveau international des items qui parlent de conséquences positives. On a passé plus de temps ensemble. C'est du temps de qualité, hein. On court partout, les parents. Puis, personnellement, ben, je représente quelqu'un qui vient d'un milieu plus favorisé. Il y a beaucoup de personnes, puis on a eu la chance de pouvoir faire des tournois de Uno avec mes enfants chaque soir. On a eu le temps de faire des choses vraiment qu'on n'arrivait pas à faire parce qu'on courait partout. Donc, je pense que c'est important pour ceux qui ont pu avoir cette chance-là de trouver une façon d'être appréciatif des petits moments qui ont pu être vécus, mais sans oublier que pour un grand pan de la société, ça sera quand même une situation qui va avoir été vécue avec beaucoup de stress.
Donc, on réalise l'importance des données longitudinales en ce moment là, pour les futures études. Monsieur Berthelot, voulez-vous nous parler un peu des études que vous menez présentement ou de vos projets de recherche?
Oui, tout à fait. Je pense que Delphine a très bien contextualisé le tout dans le sens que ni un ni l'autre, hein, on est des spécialistes de la COVID, puis on prétend pas le devenir non plus avec les circonstances. Donc, tu sais, chacun avait nos expertises dans des domaines bien particuliers, mais qui inévitablement s'appliquent aux circonstances exceptionnelles qu'on vient de vivre et qu'on vit toujours. Donc, dans mon cas, mon expertise se situe davantage au niveau de l'impact des traumatismes sur toute nature interpersonnelle là, vécu au cours de l'enfance. À l'âge adulte, alors que c'est à notre tour de devenir parent. Donc, quel genre de retentissement ça va avoir pendant la grossesse, au moment où on est à notre tour parent, sur notre relation avec notre enfant, puis même quels peuvent être les impacts qu'on dit intergénérationnels de ces traumatismes-là. Donc, comment ça va affecter en retour le développement de notre enfant. Donc, bien entendu, cette expérience, cette expertise-là que j'avais par rapport à la question de la grossesse, la parentalité, bien, s'appliquait de façon bien particulière aussi au contexte de la COVID, parce que comme on vient de le parler, la situation a eu des impacts assez importants sur les familles. Puis, moi, je me suis intéressé plus particulièrement aux femmes enceintes qui, pour plusieurs raisons, on pouvait s'imaginer, étaient une population relativement vulnérable là, à vivre de la détresse psychologique, même si les données de recherche semblent suggérer qu'ils ne sont pas une population plus vulnérable au niveau physique. Alors, on sait que toute la période où les femmes sont enceintes, les hommes sont en train de devenir pères, c'est une période de turbulence importante où il y a beaucoup de bouleversements déjà qui se produisent. Il y a beaucoup de suivis médicaux qui sont requis, nécessaires, qui sont importants. Là, tout ça était bouleversé davantage pendant la COVID. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à venir documenter un peu plus qu'est-ce qui était l'expérience précise là, des femmes enceintes pendant la période de pandémie. Puis, où on a pu documenter notamment assez rapidement qu'on observait une augmentation importante là, des symptômes psychologiques chez les femmes enceintes en cours de grossesse, qui est une préoccupation, je pense, importante à soulever, parce que j'aurais tendance à penser qu'à la moyenne, là, il y a eu une augmentation dans différents groupes de la population, pas juste chez les femmes enceintes, là, mais dans la majorité des populations, probablement, qu'on voyait plus d'anxiété, plus de symptômes dépressifs et autres. Par contre, chez les femmes enceintes, là, où il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que ces symptômes-là peuvent avoir une incidence assez importante hein, sur leur expérience de la grossesse, la relation conjugale, mais aussi même sur le développement du fœtus, parce qu'il y a des données qui existent à cet effet-là. Fait que pour nous, c'est important de assez rapidement là, venir souligner ça à l'ensemble des communautés, que ce soit communauté scientifique, mais même politique, médicale et autres, pour qu'on puisse entreprendre le plus rapidement possible des actions pour venir amoindrir cette détresse-là chez les femmes enceintes.
Puis qu'est-ce que tu as trouvé dans tes données? Qu'est-ce qui apparaît? C'est quoi tes plus grands constats?
Bien, les plus grands constats, comme je disais, c'est des constats qui sont malgré tout assez simples et pas si surprenants. Là. C'est-à-dire qu'on voit une augmentation de la détresse là, pendant la grossesse chez les femmes en attente d'un enfant. Où est-ce qu'on avait quand même l'occasion où on a pu comparer une cohorte là, de femmes qu'on a recrutées là, au cœur de la pandémie, donc vraiment au début avril, alors que le confinement venait d'avoir lieu et autres, là, qui est probablement la période de temps qui était la plus stressante là, qu'on a vécue, en tout cas à plusieurs égards, là, jusqu'à maintenant. Puis on avait une cohorte qui avait répondu à nos mesures avant l'arrivée de la pandémie. Fait qu'on a pu comparer les deux groupes. Puis qu'en effet, on a observé une augmentation de la détresse là, sous forme de symptômes anxieux, dépressifs. Également sous la forme de symptômes de stress post-traumatique ou d'autres types de symptômes qu'on associe plus typiquement au trauma, comme la dissociation. Mais ceci étant dit, en termes de signification clinique, là, c'était vraiment en termes de symptômes anxieux et dépressifs qu'on voyait une augmentation importante. On voyait cette augmentation-là dans tous les groupes là, de femmes enceintes. Donc, c'est pas vraiment les gens qui étaient à la base plus vulnérables, qui avaient des grossesses à risque, qui avaient une situation économique défavorisée, bien que celles là, qui étaient sous le revenu médian dans la population, puis celles qui avaient déjà des antécédents de troubles mentaux étaient celles qui, dans notre échantillon, présentaient le plus de détresse psychologique en cours de grossesse.
Pensez-vous faire un suivi avec, mettons, les enfants qui vont naître post-COVID, dans le fond? Ben, pas, mettons, les enfants de ces mères-là, dans le fond?
Oui, certainement. C'est ce genre de choses qu'on s'intéresse à faire. Pas juste notre équipe. Là, j'aurais tendance à penser qu'actuellement, il y a des centaines d'équipes à travers le monde qui se sont posées les mêmes questions que nous et qui vont suivre les familles de façon longitudinale. Donc, on va devoir réfléchir à comment on souhaite se positionner par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'on a un beau bassin, là, un bel échantillon pour pouvoir suivre ces familles-là dans le temps puis voir quelles sont les implications là, pour ces parents-là, mais éventuellement même pour le développement de leur enfant. Je vous dirais, ceci étant dit, que là où, de notre côté, on s'est toujours plus intéressé, bien, pas plus intéressé, mais qu'on s'intéresse aussi comme équipe de recherche, c'est de pas juste venir dénoter des problèmes, des facteurs de risque, mais d'essayer assez rapidement, quand on a des évidences, de pouvoir agir sur ces facteurs de risque. Là. Fait que ça, c'est tout un autre volet de nos recherches, où maintenant qu'on a documenté qu'il existe cette augmentation de la détresse, puis que les recherches antérieures ont démontré que ça peut avoir des incidences sur le développement de l'enfant, puis sur l'expérience de la parentalité, bien, ce qu'on souhaite faire, c'est d'intervenir, essayer de trouver des moyens d'intervenir le plus rapidement possible pour normaliser ou redresser ces trajectoires de risque-là. Puis ça, c'est l'autre chose qui est intéressant de nos travaux, c'est que déjà avant la pandémie, on avait développé un programme d'intervention prénatale pour les femmes enceintes, ça s'appelle le programme STEP, qui s'adresse à des femmes enceintes qui avaient vécu des mauvais traitements au cours de leur enfance. Puis qu'on s'est rendu compte qu'il pourrait très bien s'appliquer aussi là, pour les femmes enceintes de la population générale, qui n'ont pas nécessairement vécu des expériences très difficiles au cours de leur enfance, mais qui actuellement bon, pourraient bénéficier de cet espace-là pour réfléchir à leur expérience de la maternité, pour trouver des moyens de mieux régler leurs émotions, etc., puis s'engager là, le plus sereinement possible dans cette expérience-là de la maternité. Donc, on s'est adapté pour pouvoir offrir notre programme en ligne à un bassin plus général de population, puis ce qu'on va souhaiter voir éventuellement, c'est si en offrant ce programme-là, ben, on est capable de favoriser une expérience plus positive puis d'intercepter ses impacts potentiels également, ça pourrait avoir sur le développement de l'enfant.
Mais ça doit être difficile de faire une évaluation de programme alors qu'on n'est pas en contrôle des modalités d'application du programme. T'sais. Si c'est offert par Internet, comment vous faites pour vous assurer que le programme est bien suivi ou de quelle nature est-ce qu'il est fait le programme? T'sais?
Mm-hmm. Bien, de notre côté, ce n'est pas un programme en ligne que les gens vont s'asseoir puis vont suivre. Là, c'est vraiment une intervention de groupe, mais qu'on va faire via Zoom, par exemple. Okay. Donc, on est vraiment en contact avec les participantes, même si ce contact-là est différent là, que celle-là en personne. Ceci étant dit, ce qui est plus difficile actuellement, c'est que quand on veut approcher des femmes enceintes, c'est assez facile de le faire via les cliniques médicales, le rendez-vous de grossesse, etc. Tout ça a été compromis, ou en tout cas, beaucoup bouleversé pendant la grossesse. Fait on n'a pas trouvé actuellement un moyen efficace de rejoindre les femmes enceintes, de les inviter à participer au programme, de les attirer vers ce programme-là. Donc, ça a été plus ça nos défis, je vous dirais, jusqu'à maintenant pour implanter ce volet d'intervention. Ça a été beaucoup plus facile pour des gens qui souhaitaient compléter des mesures. Là, ils l'ont fait. On était une des premières recherches aussi arrivées là, sur les réseaux sociaux, entre autres. Fait que là, il y a eu vraiment un bassin de gens qui s'y ont intéressés, puis qu'il y a plus de 2000 femmes enceintes là, qui ont accédé à nos questionnaires puis qui ont répondu en partie. Mais maintenant, de s'engager dans une intervention, ça a été plus embêtant parce qu'on n'avait pas l'occasion de leur présenter là, verbalement l'intervention ou discuter avec elles. Fait que ça, c'est ça le défi principal, je vous dirais, qu'on a vécu jusqu'à maintenant par rapport à ce volet de nos recherches.
Parce que votre capacité à rejoindre les gens, moi, j'avais trouvé ça impressionnant. Les données qui étaient accumulées avant COVID, c'était 496 participants, ce que j'ai vu dans l'étude. Puis pendant COVID, vous avez 1258 participants qui sont arrivés à l'intérieur des deux semaines, du 2 avril au 14 avril, quelque chose comme ça. Je me dis, mais c'est bon. Je dis, comment est-ce que vous expliquez ça, que les gens aient plus répondu comme pendant la COVID qu'avant? Mettons, c'est, la façon d'approcher les gens était différente?
Oui, la façon d'approcher les gens était différente. Là, on ne pouvait plus les approcher comme on fait normalement via les cliniques médicales, les rendez-vous de grossesse. Donc, on est allé vers les réseaux sociaux. Ceci étant dit, on a eu la préoccupation assez rapidement de dire qu'il faut agir vite. Parce qu'une chose qu'on aurait pu faire, par exemple, c'est de recontacter nos mêmes participants, puis d'avoir des mesures avant, pendant la COVID. Puis ça a été super intéressant, probablement même un devis encore plus fort que celui qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Mais c'est long de faire ça. Hein. Puis nos données de recherche ne seraient pas encore publiées. Puis on avait le sentiment qu'il fallait agir d'urgence. C'est alerter rapidement les académies médicales, les décideurs, etc., de ce qui se passait actuellement avec les femmes enceintes, parce qu'on soupçonnait une inflation là, importante de la détresse psychologique. Fait qu'on a tout fait pour agir le plus rapidement possible. Puis, en agissant rapidement, un avantage que ça a eu aussi, c'est qu'on était à peu près une des premières recherches arrivées sur les réseaux sociaux, alors que maintenant, ben, tu sais, on en voit 10-15 chaque jour. Là. Fait que je pense qu'il y a eu un certain essoufflement de la population, un certain écœurement aussi, où est-ce que les gens sont tannés d'entendre parler du COVID, veulent passer à autre chose, etc. Mais au moment où on est arrivé, tu sais, je pense que les gens avaient besoin de signifier qu'il se passait quelque chose de différent dans leur vie aussi, puis ce qui fait en sorte qu'il y a autant de gens qui ont voulu participer. Fait que là, ben, ce qu'on va faire dans les prochains jours, c'est de recontacter tous ces gens-là, parce que la plupart nous ont laissé leurs coordonnées pour participer à d'autres volets de la recherche, puis voir où ils en sont maintenant, parce qu'on peut penser que pour plusieurs, la situation est bien différente aujourd'hui qu'elle l'était là, au début du mois d'avril.
Parce que là, mais faut pas passer ça sous le tapis. Là. Je veux dire, cet article-là, ça relève pratiquement du miracle. Là. Je veux dire, mettons qu'on regarde juste le timeline un peu de comment ça se passe. On se dit, c'est le 13 mars, le gouvernement du Québec déclare l'état d'urgence. Le 2 avril, vous avez fini votre première collecte de données le 1er mars. Ouais, c'est ça, 2020. Vous avez l'approbation éthique le 2 avril. Vous avez fait une collecte de données supplémentaire en deux semaines jusqu'au 13 avril. Et vous avez publié le 25 mai. Donc, ça m'a fait rire un peu quand vous dites « To the best of our knowledge, this is the first study reporting a significant surge of distress. » c'est pas le sujet qui me fait rire, mettons, mais c'est juste le fait que ce soit la première étude. Je veux dire, c'est publié le 25 mai. Donc, si on sait, mettons, que ça prend à peu près un mois pour avoir les reviewers, ça voudrait dire que vous auriez au moins soumis le 25 avril, tu sais. Puis si vous avez fini votre collègue de donner le 13, ça veut dire que c'est quasiment écrit tout au complet en 12 jours. Je veux dire, ma seule question, c'est comment vous avez fait ça, tu sais.
Ouais, les timelines sont assez justes. On a travaillé fort, là, je vous dirais, ça c'est une chose. Moi, il y a deux choses que je retiens là, de ces travaux-là qu'on a fait pendant la pandémie. La première, c'est qu'on a vraiment une équipe absolument extraordinaire. Oui, tout à fait. J'étais pas tout seul dans ça. Puis toute l'équipe d'étudiants qui est autour de nous, les étudiants du Scriptcast sont mobilisés. Ils ont été très impliqués, super actifs. Puis tout seul, on ne serait jamais parvenu. C'est parce qu'on avait cette équipe-là en place puis qui était dévouée là, au projet puis qui ça nous a permis d'agir assez rapidement. L'autre chose qui nous a aidés, c'est que les comités d'éthique ont accéléré tout ce qui était projet lié à la COVID. Puis de notre côté, ben on avait déjà une collecte de données en cours où tout ce qu'on a fait, c'était d'administrer les mêmes questionnaires à peu près, mais en changeant notre méthode de recrutement. Fait que, tu sais, ça n'a pas eu besoin de développer des nouveaux outils, quoi qu'on l'ait fait. On a développé quelques nouveaux outils rapidement là, en équipe. Puis, assez rapidement, ça peut être avoir l'aval des comités d'éthique. Donc, tu sais, on a eu plusieurs choses qui nous ont aidés dans ce sens-là. qui nous ont permis d'agir rapidement, qui était vraiment, comme je vous disais, notre objectif. Pas d'être les premiers, mais d'alerter les gens à ce qui se passait actuellement parce que les académies médicales, par exemple, d'obstétrique, gynécologie, etc., vite sont arrivés avec des guides de pratique puis disaient, OK, il faut séparer la mère de l'enfant quand elle a le COVID, est-ce que ça a des impacts sur la grossesse? Puis c'est super intéressant et important de le faire. Mais en même temps, il n'y avait rien au niveau mondial dans les recommandations. Ça veut dire, peut-être qu'il faut aussi demander aux femmes enceintes comment elles vont, puis d'essayer de faire quelque chose pour les soutenir là, lorsqu'elles ne vont pas super bien. Fait que c'est un peu ce qu'on a voulu faire en publiant rapidement notre article pour limiter le plus possible l'incidence que ça pouvait avoir.
Super. Bien, c'est tout à votre honneur. Puis, personnellement, j'ai lu avec intérêt ton article, bien que ça ne soit pas un sujet que je connais beaucoup. Là, je connais plus le domaine des traumas, mais j'ai trouvé ça super pertinent. Puis vous avez fait des bonnes recommandations aussi. Là. Puis toi, Delphine, est-ce que tu as vécu des enjeux par rapport à tes recherches durant la pandémie?
Les enjeux que j'ai vécu, c'est justement de partir certains projets qui étaient peut-être moins exactement en continuité et donc d'avoir des délais, tu sais, malgré, par exemple, on a un nouveau projet où on implante des grilles cliniques dans tout le continuum jeunesse, dans les CIUS et CIS de la province. C'est subventionné par le ministère Santé et Services sociaux, donc c'est vraiment comme pour venir appuyer les intervenants qui pouvaient être un peu laissés à eux-mêmes pour communiquer avec les différentes familles qui servent, qu'ils ont déjà là, comme clients. Mais là, quelle question poser? C'est quoi les facteurs de risque? Qu'est-ce qui se passe pour ces familles-là? Donc, on a développé des grilles sur la santé sentimentale pour pouvoir les épauler. Puis, étonnamment, contrairement justement à Nicolas dans son histoire, ça a été très long à faire approuver, même s'il y avait la notion que la COVID devait faire accélérer les choses, même si on avait un projet qui était, dans le fond, appuyé par le ministère. Malgré tout, et on n'a aucune donnée très sensible, ce sont les intervenants qui complètent ces grilles, puis on a eu quand même ces embûches. Alors, je trouve que c'est sûr ça, c'est l'aspect peut-être, j'ai souvent fait la comparaison quand j'attendais impatiemment la réponse, puis je voyais aux nouvelles qu'ils étaient déjà en train de tester des nouveaux vaccins pour la COVID, je me disais, mais moi je demande juste la perception des intervenants sur, dans le fond, quels sont les enjeux vécus par les familles qui servent, c'est beaucoup, beaucoup d'obstacles. Alors, c'est sûr que comme chercheur, puis comme étudiant, c'est important de savoir que il faut vraiment être tenace dans plusieurs projets parce que ça ne veut pas dire que c'est toujours en ligne droite, que c'est toujours facile. On peut vivre quand même plusieurs échecs ou des moments où les choses ne vont pas tout à fait ça ne roule pas de la façon qu'on aimerait. Mais si on croit en ce qu'on fait, si on pense que c'est pertinent, que ça va avoir une plus-value, bien, c'est de s'assurer qu'effectivement, on s'entoure d'une bonne équipe parce que ça, c'est vraiment essentiel. Et que on est tenace même quand il y a certains obstacles devant nous.
Ça va gentil les étudiants puis les autres chercheurs, effectivement, parce que je pense que le milieu de la recherche, quand même, on peut faire face à plusieurs embûches ou des longs délais parfois. Là, Kevin, tu l'as mentionné tantôt. Là, des fois, là, les processus de révision des articles, ça peut être extrêmement long ou avoir aussi l'approbation d'un comité éthique pour certaines choses, etc. Donc, oui, il faut faire preuve de patience.
C'est une vertu à développer comme chercheur. Beaucoup de patience, puis quand même de la patience aussi. Puis être capable de vraiment persévérer même lorsque les choses sont pas aussi faciles. Puis on disait bien s'entourer, puis... Nicolas mentionnait les étudiants qui sont vraiment là, les personnes hyper importantes. Puis nous aussi, entre collègues, c'est inspirant pour les uns et les autres de voir ce que chacun fait. On a comme chacun notre petite niche, mais c'est une grande mosaïque finalement. Tu sais, lorsqu'on met tout ensemble ce qu'on est capable de produire, le CRIPCAS, c'est vraiment un groupe de recherche là, qui est un des meilleurs exemples, je pense, dans les groupes de recherche en termes de cette synergie, chacun a contribué, puis essayer de contribuer à la formation des étudiants pour qu'on soit encore plus nombreux à avoir cette mission-là.
Mais on parlait d'éthique et de publication un peu tantôt, puis je me demandais comme, qu'est-ce qu'on pense on parlait des délais, mais qu'est-ce qu'on pense des délais, est-ce que c'est correct que ce soit plus long Est-ce qu'il aurait vraiment fallu qu'on soit plus urgent dans la manière de gérer les demandes? Puis, de la même façon, qui est-ce qui est suffisamment connaissant de la COVID pour juger du bien fondé d'une proposition politique ou d'une proposition pour une publication? Tu sais? Qui est-ce qui est suffisamment bien connaissant pour dire la publication que vous m'offrez là, ben, elle n'est pas bonne? Tu sais? C'est qui les bons reviewers pour les publications? Puis c'est qui les bons reviewers pour l'éthique? Tu sais, c'est quoi le... Est-ce qu'il faudrait être plus rigide? Est-ce qu'il faudrait être plus lousse, comme ils le font pour les vaccins? Tu sais,
Je pense qu'on ne veut pas descendre la qualité hein, des travaux qu'on fait. Alors, il y a toujours un équilibre à trouver entre, oui, il y a une urgence, il y a des données à sortir rapidement pour qu'on puisse influencer les pratiques et les politiques, et pas seulement en rétrospective, mais en temps réel, parce qu'il y a des gens qui sont en besoin. Mais en même temps, c'est ça. Tout ça en pesant les pour et les contre pour toujours garder quand même un niveau de qualité dans les publications. Et vraiment, les comités d'éthique à la recherche, ils ont vraiment une raison d'être très, très importante. Mais il demeure que c'est vraiment une question d'équilibre et de balance. Puis des fois, ben, malheureusement, ça va un peu trop d'un côté ou de l'autre. En ce qui me concerne, je préfère attendre un peu plus longtemps, mais être sûr que ce que je produis avec mon équipe reste de bonne qualité. Puis je suis sûre que Nicolas, c'est un souci là, qui est présent chez tout, l'ensemble d'entre nous.
Tout à fait. moi, j'aurais de la difficulté à me plaindre de la lenteur dans les circonstances. Là, où vraiment, je trouve que tout était rapidement, que ce soit les comités d'éthique, les reviewers, etc. Puis, ça n'a pas été des révisions d'articles qui ont été complaisantes. Il y a eu 2-3 reviewers pour les articles, puis qu'ils ont fait une bonne série de commentaires. Mais il y avait une pression des éditeurs des journaux pour dire, au lieu de prendre un mois, là, pourriez-vous le faire en une semaine, si vous êtes capable. Puis, je pense que la communauté scientifique internationale a beaucoup mis la main à la pâte là, pour dire, OK, quand il y a des choses importantes, essayons d'accélérer les choses malgré les contraintes qui s'imposaient mondialement, tu sais, que les gens avaient à s'occuper de leurs enfants et autres. Ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on révise un article scientifique, on ne révise pas les résultats, on révise le protocole de recherche. Puis ça, de savoir si un protocole de recherche est adéquat ou non, mais même si des fois, ce n'est pas exactement notre expertise, la plupart des chercheurs vont être en mesure de le faire. Mais oui, il y en a qui ont tourné les coins ronds parce qu'ils pensaient avoir des résultats très forts. Vite, on publie ces résultats-là, puis on a vu les effets que ça peut avoir. Je vous ai parmi les plus grands journaux scientifiques au monde. Il y a eu des exemples dans Lancet, le New England Journal of Medicine, qui sont des journaux avec des facteurs d'impact de 50. Ils ont dû rétracter des articles parce qu'ils sont aperçus que, oh, OK, là, les données sont peut-être pas exactes, il y a des choses qui nous ont été cachées. Fait que des fois, en essayant d'aller trop vite, il y a un risque à ça aussi. Puis le problème, c'est que vite, ces données-là étaient tellement pressantes qu'une fois publiées dans l'heure qui suit, c'était dans les médias internationalement, puis ça orientait des décisions qui étaient prises là, au niveau clinique et autres, parce qu'on partait de rien. Fait qu'il y avait, il y a certainement un risque à aller trop rapidement avec des publications scientifiques. On a vu des beaux exemples, en tout cas des exemples de ça, je pense, dans les derniers jours, dernières semaines.
Donc, de votre expérience, hormis les exemples que vous avez nommés, mettons, mais de votre vécu, on a gardé le même espèce de niveau de conservatisme, mettons, mais on a comme compensé pour ça avec davantage d'efforts, mettons.
Ben, c'est un mélange des deux, peut-être. T'sais, comme je dis, des fois, on est allé trop vite sur des choses, mais en même temps, le travail de révision qui était fait, à mon avis, le plus souvent qu'autrement, était de très forte qualité. Mais tu sais, quand je dis que moi, il y a deux choses que je retenais de la pandémie actuelle, l'un était la qualité de mon équipe, mais l'autre chose, je pense, qui a vraiment été pour moi, pas une révélation, mais une prise de conscience à quel point nos recherches pouvaient avoir des impacts sur les politiques sociales, puis avoir des retentissements importants pour la population. Ma collègue Delphine le dit un peu tout à l'heure, mais peut-être pas dans sa pleine ampleur parce qu'elle est humble, mais à travers le fait qu'elle a écrit un article, une lettre d'opinion dans les médias pour dire, écoutez, je pense que c'est important que les jeunes soient en contact avec leurs professeurs parce qu'ils ont pas accès à leur filet de sécurité. Le lendemain, le ministre de l'Éducation a pris des décisions basées sur ça. Puis, ça a changé la vie de milliers de jeunes au Québec. Tu sais, la même chose à travers notre article, des journalistes internationaux qui m'ont contacté, puis il y a eu des articles plus grand public qui ont été diffusés dans des médias, par exemple comme Medscape, qui a dans sa liste de diffusion à peu près 2 millions de médecins puis d'autres professionnels. Fait que, tu sais, on peut penser qu'à travers ces actions-là qu'on a faites, on va avoir impacté la vie de plusieurs jeunes ou plusieurs familles ou plusieurs professionnels, beaucoup plus qu'on le fait typiquement avec des articles scientifiques. Donc, ça, c'est l'autre chose que j'ai trouvé particulière, qui est peut-être pas un phénomène international, là, dans le sens que je pense qu'au Québec, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une écoute des scientifiques, puis on l'a vu dans les médias, etc., où est-ce que les scientifiques étaient souvent présents, alors que, par exemple, aux États-Unis, on dirait qu'il y a eu un effet un peu l'inverse, hein, où est-ce que la parole scientifique valait la parole d'opinion aussi. Fait que, mais je trouve qu'au Québec, il y a eu cet effet-là qui était certainement important, puis je trouve très, très stimulant.
Puis c'est la première fois, mettons, que vous sentez que vous avez autant l'écoute du gouvernement, genre, ou que vous avez autant de force, mettons, sur les décisions qui peuvent être prises?
Personnellement, je dirais que non, là, dans le sens que les deux, on était aussi invités à témoigner à la commission sur les droits des enfants en protection de la jeunesse. Il y a une certaine écoute à ce niveau-là, mais là, vu qu'on partait de zéro comme connaissance, je pense que l'effet est encore plus grand et qu'il devait se prendre des décisions rapidement. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait du moins une écoute rapide, là, puis une action rapide basée sur les propos scientifiques ou même l'opinion scientifique là, comme celle de Delphine.
J'étais contente de voir que ça dépassait le cadre de la santé, c'est pur, puis que ça venait chercher justement tout le côté vraiment psychosocial, éducation, parce que dans une période de pandémie, on l'a vraiment vu vite, c'est la santé, puis c'est de s'assurer que les gens ne contractent pas la maladie qui devient vraiment l'objectif principal, mais derrière, il y a des gens qui ont d'autres besoins, les problèmes de santé mentale existaient, puis là, graduellement, on a vu poindre la préoccupation pour les gens qui étaient itinérants. Oups, on a vu poindre comme différentes populations qu'on avait complètement oubliées pendant quelques semaines parce que il y avait vraiment comme un focus assez étroit finalement sur ce qu'on était en train de vivre. Puis je pense que c'est une réalité qu'on n'aurait pas pu éviter, mais c'est une leçon à apprendre aussi, puis de prendre, nous, la parole comme chercheurs. Moi, c'est un peu ça qui m'a motivée au départ d'écrire cette... ces lettres ouvertes, puis de pouvoir être dans les médias pour rappeler, finalement, je n'avais pas de données, j'avais simplement une opinion à émettre sur la base d'une expertise. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que les chercheurs, les étudiants aussi peuvent vraiment faire, parce que de soumettre une lettre ouverte n'est pas toujours... publiée, mais le jour où elle l'est, bien, on peut avoir comme une nouvelle vitrine. On a un nouvel impact qui sera effectivement pas celui d'un article scientifique. Mais en pesant tout ça, j'ai l'impression, moi aussi, quand même, avec la crise de la COVID, à tout le moins, qu'il y a certaines productions de recherche qui sont pas celles des articles, qui ont finalement eu un impact peut-être beaucoup plus grand aussi à certains égards. Puis de revaloriser ce type de transmission des connaissances et de s'engager dans un dialogue avec les décideurs publics. Ça peut sembler intimidant au début parce que il faut quand même être sûr de son message. Puis souvent, en tout cas, moi, j'aurais de la difficulté à faire ça au début de mes études parce que j'aurais pas été certaine que j'avais bien canné comme mon message. Il est venu avec le temps, il est venu avec l'expérience, puis voir ce qui finalement était une conviction profonde. Puis soit que j'avais des données sur lesquelles je pouvais m'appuyer ou soit que j'avais des données d'autres personnes. J'arrivais avec l'UNICEF, j'arrivais avec d'autres instances qui s'inquiétaient des enfants et de la violence. Donc, je les amenais avec moi pour appuyer mon opinion. Mais ça, c'est vraiment comme une compétence à développer. Puis si on est intimidé au début, je pense que c'est assez normal, mais de penser, en tout cas, à le développer avec le temps comme chercheur, c'est une très, très belle vitrine.
Ben, une compétence de confiance en soi, principalement aussi, je pense, hein, parce que là, tu n'as pas le filet de la révision par les pairs pour te dire comme, bon, ben là, ça, c'est peut-être pas correct, ça, c'est peut-être pas correct. Là, c'est vraiment un article de journal, ça, c'est ton nom qui est dessus, puis la titre, les gens vont venir critiquer, tu vas recevoir des courriels, puis...
On a un peu moins de contrôle aussi, on a un peu moins dans le passé, là, ça ne s'est pas produit maintenant, mais dans le passé, j'avais eu la chance d'avoir une très belle page dans la presse sur un des articles que j'avais fait sur le dévoilement en agression sexuelle. Puis, c'était vraiment comme une belle entrevue, mais le titre de cet article de journal était « Les victimes doivent dénoncer ». Tu sais, c'est pas vraiment ça que je disais dans ça. Ça manquait beaucoup de nuances en disant ça, parce que moi, je disais pas « ils doivent dénoncer ». Je disais « on doit bâtir des sociétés qui permettent aux victimes de se sentir en sécurité pour dévoiler ». Mais vous voyez bien que ça fait pas un titre de journal. Donc, c'est une grosse nuance. Mais pour le journal, donc il faut des fois aussi lâcher prise, s'assurer, est-ce que grosso modo, c'était vraiment quand même mon message est passé? Lorsqu'on est en direct aussi, on peut ne pas avoir prévu telle question ou il peut y avoir une question qui est un peu coinçante. Donc, c'est sûr que dans les entrevues que j'ai données à la suite justement du ministre qui a décidé de... qui a mis cette politique en place, cette recommandation, j'ai eu plusieurs questions qui pouvaient être coincantes, hein, pour, dans le fond, où j'aurais pu me commettre puis dire des choses qui vont au-delà, finalement, de ma position comme chercheur. C'est comment naviguer tout ça. Alors, c'est vrai que ça nous sort complètement de nos sentiers battus, mais c'est une invitation pour les étudiants là, du CRIPCAS de penser à développer, effectivement, ce type de compétences, que ce soit maintenant ou que ce soit un peu plus tard dans leur carrière.
Super. Ça fait chier. On dirait qu'il est satanique. Je ne sais pas ce qui se passe.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui.
Là, on t'entend bien, mais effectivement, on a eu un petit moment où on ne t'entendait plus.
Ben oui, effectivement. Je trouve que c'est un super bon conseil. Tu sais, on dirait que, je vais parler pour moi-même, mais ça peut s'appliquer aussi pour d'autres étudiants, mais on a tendance à rester comme dans notre petit carcan, là, ce qu'on apprend à l'école, la publication d'articles scientifiques, etc. Mais c'est tout à fait pertinent, justement, comme tu le dis, de faire d'autres formes de publication ou faire d'autres investissements sur le plan social. Là, tu sais. Fait que, est-ce que tu conseillerais, mettons, aux étudiants c'est justement de « go, lancez-vous, faites-en des lettres ouvertes, etc. »
Mais je pense que ça vaut la peine, en tout cas, lorsqu'on le sait quand on a quelque chose à dire. T'sais, on le sait quand là il y a un point qu'on pense qui serait vraiment, il y a une histoire. Est-ce qu'on a une histoire à raconter? Donc ça peut être un premier point de départ. Puis en fait, Nicolas, c'est lui qui m'a suggéré de publier dans la revue La Conversation, qui est un autre médium intéressant, où il y avait publié. Puis, depuis la COVID, j'en ai publié 3 qui ont été finalement la suite de... Et ça a été lu par 20 000 personnes. Puis, il n'y a vraiment aucun de mes articles scientifiques, je suis sûre, depuis que je suis chercheuse, qui a été lu par 20 000 personnes. Tu sais, c'est trop pointu, c'est trop... C'est quand même... Alors que là, on a un grand, grand auditoire. Alors, est-ce qu'on a une histoire? Est-ce qu'on a quelque chose qu'on veut raconter? Puis, peut-être de se pratiquer à travers... quand on présente même des données, finalement, c'est quoi mon histoire? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Qu'est-ce que ça a comme pertinence sociale? Qu'est-ce que ça veut dire pour la clinique? C'est souvent dans ces moments-là qu'on trouve vraiment des choses intéressantes qui pourraient mener à une lettre ouverte, qui pourraient mener à une autre chose. Mais parfois, ça se force pas tout à fait au sens où on doit sentir qu'on l'habite bien, tu sais, on est confortable avec ce message-là. Puis, et autant Nicolas et moi, je suis certaine qu'on est capable de dire en une phrase ou deux, finalement, c'est quoi le message punch, là? Puis, on m'a beaucoup donné cette suggestion-là quand j'étais en formation. C'est quoi ta ligne? Tu sais, tu veux parler de ton PhD, là? C'est quoi ta ligne que tu peux dire dans un ascenseur? Et dis pas plus que ça, puis tu veux que les gens se rappellent de toi après. Bon, ben, dans le fond, c'est la ligne la plus difficile à trouver. C'est beaucoup plus facile d'écrire un long article, de pouvoir bien élaborer que de trouver cette fameuse ligne et de dire « moi, c'est exactement pour ça que je veux être, qu'on se rappelle de moi ». Et ça peut être un exercice qui mène progressivement à développer ce genre de compétences.
Oui, je pense que Delphine l'a bien exprimé, hein, que c'est vrai qu'on s'adresse toujours à peu près au même auditoire, des professeurs, d'autres étudiants, tu sais, quand on parle de notre mémoire, notre thèse ou nos recherches. Mais il faut aussi, tu sais, faire l'exercice de dire, ben, si j'avais à parler à d'autres auditoires, si j'avais l'occasion de parler à des décideurs publics, si j'avais l'occasion de parler à ma clientèle cible, tu sais, c'est quoi je voudrais leur dire? Puis ça, je pense que chacun doit faire cet exercice-là de dire, ben, pourquoi je fais cette recherche-là? Elle dit quoi? Puis à qui? Puis comment je la formulerais si j'avais l'expliquer à tel ou tel auditoire? Puis l'autre chose en termes de lettre d'opinion ou ce type de modèle de diffusion-là, des connaissances, ou pas tant des connaissances, mais même des idées, tu sais, qu'on peut avoir. Nous, on n'est pas habitué à ça, on dirait, parce que dans le domaine des sciences sociales, c'est pas commun. Mais tu sais, je vous invite à aller voir sur des tables de matière, d'articles de journaux médicaux, tu sais, JAMA, par exemple, qui est American Medical Association, Lancet, New England, ce genre de journaux-là, vous allez voir qu'à toutes les éditions, il y a même probablement plus de lettres d'opinion que d'articles scientifiques qui sont publiés. Il y en a toujours 10, 12 par numéro. Fait que dans le monde médical, ils sont habitués à avoir ce genre de diffusion-là, d'opinion, d'idées, de directions qui doivent être prises. C'est vrai qu'on le voit moins dans notre domaine, ou tu sais, dans la discipline des sciences sociales, mais ça vaut la peine d'aller regarder ça parce que dans d'autres disciplines, c'est assez commun de voir ce genre de modèle-là.
On dirait qu'il y a une part de moi qui est comme inquiétée un peu par ça quand même. Tu sais, je veux dire, vous êtes extrêmement bon, tu sais, mettons, fait que je sais que si je vais lire quelque chose de vous autres, je sais que c'est bon, mettons. Mais tu sais, quand vous dites les étudiants pourraient commencer à faire ça, oui, mais non. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas la même rigueur, peut-être. Ben, je ne sais pas si quand on écrit un article, une lettre ouverte, mettons, il faut absolument qu'on se fie sur un article scientifique d'abord, ou si on peut écrire la lettre ouverte à partir de, mettons, pas de base de référence qu'on a déjà comme publié avec des données, mettons. Mais si on n'a pas ces bases-là, est-ce qu'on peut comme écrire un peu n'importe quoi? Ou si on présente des résultats, mettons, les résultats peuvent être mal faits, mettons, tout simplement, puis on n'a pas le processus scientifique pour comme aller chercher les erreurs qui ont comme été commises, tu sais?
C'est sûr que c'est vraiment un terrain très différent. Mais tu sais, je vais te donner des exemples d'étudiants. J'ai des étudiants, moi, qui ont eux-mêmes une historique dans leur vie d'avoir passé à travers les services de protection de la jeunesse. Ils ont plein de choses à dire. Ils n'ont pas besoin d'avoir des données de recherche hein, pour nous indiquer des choses à réfléchir. Puis dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est juste partir de leur propre expérience pour pouvoir dire, tu sais, aujourd'hui, moi, je suis rendue à telle place dans mon parcours scolaire parce que j'ai eu de la chance à tel égard. Ils ne sont pas en train de dire que ça va être comme ça pour tout le monde. Ils ne sont pas en train de dire qu'on devrait croire ça comme un fait avéré. Fait que je pense que ça dépend, bien sûr, quel type là, de publication on est en train de voir, mais on a des étudiants de la communauté noire qui se sont mobilisés autour de la situation qui s'est produite aux États-Unis, puis dans le fond, qui ont voulu pousser, par exemple, la recherche, les universités, à aussi adopter des politiques qui vont être antiracistes et qui vont promouvoir l'inclusion. Je pense qu'il faut vraiment penser, c'est sûr qu'un article scientifique, c'est un article scientifique, on peut en faire un résumé, on peut être capable d'en tirer des forces et des faiblesses, mais quand on veut influencer les politiques, quand on veut influencer les discours dans notre société, on peut partir aussi de différentes sources de connaissances. Il n'y a pas juste la science, il n'y a pas juste les articles scientifiques, puis il y a toutes sortes de choses. Mais dans le fond, l'invitation ici, c'est pas de se dire qu'on doit tous être un porte-parole hein, d'une cause ou de quelque chose, mais si on sent qu'on en a une cause à défendre, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge, puis il n'y a pas d'expertise, puis on n'est pas obligé d'être rendu des experts pour se donner le droit d'avoir une parole.
Puis pensez-vous que la lettre ouverte, c'est ce qui vous a donné, mettons, le plus de poids, mettons, par rapport à l'influence des décideurs ou l'article scientifique, mettons? C'est lequel de ces deux types de publications-là qui est...
Oui, bien en fait, dans le cas du ministre de l'Éducation, c'est vraiment les lettres ouvertes parce qu'elles ont été reprises. J'ai même eu droit à une caricature dans le Soleil. Donc, ben pas de moi, mais ça disait une chercheuse suggère, puis donc ça mettait en scène là, de l'enfant qui est content et qui court pour aller répondre au téléphone parce que sa maîtresse l'a appelé. Donc, bon, c'était rigolo, puis je pense pas que ça se serait produit si ça avait été un article scientifique d'aucune façon. Puis le ministre, c'est parce qu'il y a eu une attention médiatique, c'est parce que finalement, là, il était poussé par des forces qui sont pas celles nécessairement de la science. Puis moi, c'est d'autres personnes qui auraient pu dire ça que moi, mais parce que j'ai un titre de chercheuse, parce que, dans le fond, hein, on me donne ce droit de parole, bien, j'avais une influence, puis je pense que c'est juste ça l'idée, c'est que si on a ce droit de parole, bien, il faut l'utiliser bien, puis lorsqu'on sent qu'on a quelque chose qu'on peut raconter, bien, d'être cette source d'influence.
Mmh. Dans le fond, l'écriture... Puis, Oui, j'allais juste dire, ça fait deux fois que Delphine dit ça, quand on sent qu'on tient quelque chose, c'est que je pense qu'en effet, avant de sortir dans les médias et autres, c'est qu'il faut avoir ce sentiment-là que là, OK, j'ai une idée ou j'ai une donnée ou j'ai quelque chose qui est important, tu sais, qu'il faut qu'il soit partagé ou faut qu'il soit dit. Donc, l'idée, c'est pas de tout faire en sorte pour sortir dans les médias publics, mais de le faire au bon moment pour la bonne raison. Fait qu'en effet, on le sait, on le sent, hein, quand on est en train de faire une recherche ou on a un résultat ou juste on a eu une idée, de dire « Caroline, me semble personne n'a pensé à ça. Me semble, pourquoi? C'est important. » Fait que c'est dans cette situation-là, je pense que ça vaut la peine d'agir. Puis on peut voir à travers l'exemple de Delphine à quel point ça peut avoir des retentissements qui, à mon avis, qui sont beaucoup plus importants ou beaucoup plus évident que ce qu'on va avoir à travers des articles scientifiques, à moins de faire une découverte absolument hallucinante. Souvent, les articles scientifiques vont avoir des effets sur 10 ans, 15 ans, parce qu'ils vont influencer d'autres recherches, d'autres chercheurs, etc. Puis, ultimement, cet effet-là va se faire sentir aussi. Mais à très court terme, ben, t'sais, ça prend des prises de position comme l'a fait Delphine, puis on voit l'effet que ça peut avoir.
Ah, mais c'est incroyable. Là. Je veux dire, tu sais, mettons, d'avoir un impact comme ça pour que le gouvernement prenne des décisions, je veux dire, c'est grisant, là, je veux dire, c'est le fun. Là. Ça donne une envie de faire ce métier-là, là, c'est clair.
Merci. Ça, si on peut être des sources un peu d'inspiration, on a des passions. Ça, c'est clair, Nicolas et moi, on est des gens passionnés. Je pense que c'est nécessaire pour faire ce travail-là parce que c'est... il y a plein d'avantages à vraiment être un chercheur, être un professeur à l'université. Là, c'est un lieu privilégié dans la vie, mais ça nécessite beaucoup de travail. Puis, des fois, beaucoup de travail dans l'ombre avant, justement, qu'il y ait quelque chose d'un peu comme spectaculaire qui puisse se produire. Mais cette passion-là, elle est nécessaire. Fait que peut-être, dans les autres recommandations, quand on est étudiant, c'est de s'assurer qu'on choisit vraiment un terme qui nous passionne parce qu'il va nous suivre pendant longtemps. On va lire sur ça, on va parler de ça tout le temps. C'est pas toujours des termes drôles. Nicolas et moi, on n'a pas choisi du tout là, de travailler sur des thèmes sociaux qui sont faciles, mais ils nous passionnent puis on sent qu'on a une pertinence là, lorsqu'on fait ce travail-là. Puis ça, je pense que c'est vraiment précieux.
Puis justement, en parlant de ça, parce que tu dis oui, suivez votre passion, choisissez un sujet qui vous passionne, mais ça demande beaucoup de travail quand on veut devenir chercheur, quand on veut devenir professeur. Comment vous gérez ça, vous autres, la conciliation travail-famille?
On la gère. Je dirais, avant la COVID, ma façon de gérer, c'est vraiment d'être quelqu'un qui est capable de vraiment compartimenter. Quand c'est mon temps famille, c'est mon temps famille. De façon presque générale, à part s'il y avait des délais là, pour une subvention, je ne travaille pas le week-end. Je vais travailler énormément la semaine s'il faut, mais ça, c'est mon temps de famille. Alors, j'avais vraiment des capacités de pouvoir faire des petites boîtes puis me sentir donc présente et compétente quand je suis au travail, mais aussi présente et compétente quand je suis une maman. Puis ça a toujours été très sacré pour moi. Avec la COVID, c'est sûr que ça a défait un peu ça. Alors, moi, je suis en période plus d'instabilité parce que tout devient un peu plus confus puisqu'il n'y a pas des lieux différents, les temps. Alors, c'est une adaptation nécessaire, mais je dirais que jusqu'à présent, avant la COVID, ça a été ma grande ressource là, très nécessaire pour pouvoir vraiment réussir à mener tout ça de front. C'est de pouvoir vraiment bien scinder les choses et être contente de ce que je fais à travers les différents moments, essayer d'être le plus possible dans le moment présent, là, au mieux que je pouvais.
Ouais, si je peux compléter, c'est sûr que des contextes comme la COVID, hein, ça s'infiltre dans les failles de tous les systèmes, là, que ce soit les systèmes politiques ou familiaux, personnels. Là. Souvent, comme professeur, ça peut être l'aspect qui est difficile de maintenir un équilibre entre le travail et la famille. Pour plusieurs personnes, ça met une pression sur le système familial, c'est évident. Moi aussi, j'ai un peu la même discipline que Delphine, là où je ne travaille pas les fins de semaine, mais ceci étant dit... je me suis couché tard dans les derniers mois, tu sais, pour compenser, puis là, je suis fatigué. Fait que c'est sûr qu'il y a eu ce genre de répercussions-là. Personnellement, ma conjointe a été absolument fantastique aussi dans le temps qu'elle a pu accorder à la famille, sacrifier plusieurs choses et autres. Ça a donné une chance pour pouvoir avancer sur les choses qu'on est en train de faire. Mais c'est ça, il a fallu rééquilibrer pour être sûr d'être disponible aussi, puis parce qu'on le souhaitait, là. Ça a été vraiment un chamboulement, puis que j'avais l'impression de très bien vivre, en fait, là, que ça allait bien, mais que le jour où ma fille est retournée à la garderie, je me suis aperçu à quel point c'était précaire comme équilibre, là, puis à quel point ça fait du bien aussi d'avoir un peu plus de temps pour faire les choses. Tu sais, je pense qu'on était plusieurs mois à avoir des respirations courtes, là, tu sais, être toujours pris entre deux choses. Ça a été exigeant. Puis, moi, personnellement, je m'en suis aperçu. J'en ai pris la pleine mesure, du moins, quand ça s'est un peu estompé. Puis ma fille était à la garderie, je vous dirais.
Quand l'adrénaline est tombée. Hein?
Puis est-ce que ça l'a, ben dans le fond, est-ce que la COVID, selon vous, ça va changer ou ça l'a changé votre façon de travailler, soit en tant que chercheur, en tant que clinicien ou en tant que prof? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie professionnelle?
C'est sûr que ça change. Dans le fond, ça ramène à l'essentiel. Je pense qu'on n'a pas eu le choix de voir que ben on est capable de mener certaines choses, peut-être moins à bout de souffle si c'est possible, si on peut justement faire des zooms parfois. T'sais, est-ce que c'est possible de trouver d'autres modalités qui sont peut-être pas toujours idéales, mais on a vu qu'elles fonctionnaient quand même dans certains cas. Je pense que ça va changer d'une certaine façon. En tout cas, moi, j'aspire, puis encore là, c'est un vœu pieux, là, un petit peu, mais j'aspire à pouvoir apprendre de la COVID que peut-être je peux avoir plus des journées que je protège ou je travaille de la maison, ce que je faisais vraiment pas du tout. Peut-être justement, si je vois que j'ai trop de déplacements dans un mois, de proposer de maintenir les réunions, mais de les avoir en visioconférence, tu sais, ça... Moi, ça m'a appris quand même à me recentrer un petit peu. Je suis quelqu'un qui est très bien dans l'action, mais il y a un moment aussi où ça devient débordant. Puis, on prend soin des autres à travers nos projets de recherche, puis prendre soin de soi demeure important. Fait que ça, j'espère, en tout cas, moi, personnellement, là, de pouvoir le maintenir, mais je suis mon pire ennemi là, sur ce côté-là. Hein. Souvent, on s'est rendu à faire des longues études parce qu'on est des gens qui sont capables d'en prendre beaucoup, d'en mener large, être capable vraiment là, d'être très, très mobilisé, mais donc de trouver l'équilibre.
De mon côté, moi, je vous dirais que je ne vis pas à côté de mon université. Hein. Je suis à Québec, l'université à Trois-Rivières. J'étais habitué au travail à distance. Donc, tu sais, ces genres de choses, j'avais mis en pratique. Je sors il n'y a pas longtemps d'une sabbatique où j'avais fait ce travail-là à distance aussi. Donc, tu sais, malgré tout, ça n'a pas trop changé de choses. Puis, tu sais, j'étais tellement occupé dans les dernières années que j'avais appris à dire non aussi à plusieurs choses. J'ai limité mes déplacements et autres pour y arriver, là, parce que déjà, j'étais à bout de souffle avec ce que j'avais à faire. Fait que, dans ce sens-là, tu sais, je dirais que pour moi, du moins, c'est un peu la continuité de ce qui était déjà en place. J'aimerais vous dire que, tu sais, ça a remis en perspective qu'aujourd'hui, je travaille moins, etc., mais ça serait vous mentir.
Là, parce que non, ça, non!
J'en ai plus qu'avant, tu sais, je pense pas que ça soit différent dans ce sens-là ou que j'arrête des projets où j'en fais moins. Au contraire, tu sais, je pense que ça fait juste en rajouter parce que, tu sais, il y a d'autres choses intéressantes qu'on voit. Tu sais, cette cohorte-là, on l'avait pas prévue de la COVID et tout ça. Fait que... ça n'aura pas cet effet-là que plusieurs, qui a été vrai pour plusieurs personnes. D'ailleurs, tantôt, on parlait des effets négatifs sur les familles, mais il y a des études qui ont été faites, entre autres, au Québec, par le regroupement pour la valorisation de la paternité, auquel a participé mon collègue Carl Lacharité aussi, qui démontre que pour bien des familles, ça a eu ce genre d'effet-là, par contre, qui se sentent plus engagés, qui remettent des choses en question, qui disent « OK, mais je passais trop de temps au travail, peut-être qu'il faut que je sois plus disponible pour ma famille et autres. » Je pense que de notre côté, on est assez conscient que cet équilibre-là était à préserver et on avait mis des mesures en place pour y parvenir. Mais ça a eu ce genre d'effet-là positif chez bien des familles, ce qui est une retombée positive de la COVID, par contre, parce qu'il y en a eu plusieurs retombées négatives dont on parle depuis tantôt.
C'est sûr, mais c'est jamais tout noir ou tout blanc. Je pense qu'il faut aussi être capable de souligner le positif. Moi aussi, je pense qu'effectivement, il doit y avoir eu plus de rapprochement dans des familles. Puis que ça peut donner lieu aussi à des changements dans les méthodes de travail. En tout cas, du moins, on va espérer un petit peu.
Hein, on ne veut pas trop prendre de votre temps non plus. On s'était dit une heure. Donc, écoutez, un énorme merci. Là. Vous êtes des personnes tellement inspirantes. Je se considère vraiment, en tout cas, en notre nom, là, mais vraiment chanceux que vous nous ayez donné ce temps-là. Puis merci mille fois. Ouais. Merci.
Merci encore d'avoir organisé ça. C'est vraiment pouvoir bâtir aussi des ponts entre les professeurs, chercheurs, les étudiants, puis de vraiment voir qu'on est une collectivité aussi, là, hein, on est tous ensemble dans cette grande aventure. Puis merci aussi de l'avoir organisé.
Tout à fait. C'est une très belle initiative de votre part. Félicitations. Puis, comme on l'évoquait tous les deux, hein, votre apport aussi à tous les étudiants du CRIPCAS a été majeur là, dans les travaux qui sont faits dans cette période-là, puis aux travaux qui se font de façon générale de toute façon.